Alors, parler des enfants avec vous, c'est vraiment un défi parce que je crois que c'est dans votre ADN, en fait. Quand je pense à tout l'investissement de votre église à Lermont, à Saint-Lunaire, vraiment le ministère auprès de la jeunesse, voilà, pour moi, c'est évident que vous avez ce gène de la jeunesse dans votre cœur. Et pourtant, c'est ce que Dieu m'a mis à cœur ce matin, peut-être en pensant à la nouvelle génération, ben c'est de parler encore de ce sujet tellement important des enfants. J'aimerais qu'on ouvre la Bible dans Matthieu 18, versets 1 à 14. Et on va parcourir en quelques minutes un sujet qui concerne le royaume de Dieu. Et les deux slides suivants sont le texte que nous allons lire. Et vous pouvez le suivre au PowerPoint. Je vais le lire, là c'est la seconde 21, je vais le lire dans ma bonne vieille version Scofield 1975, je crois. Mais c'est très proche. Peut-être on va prier avant d'ouvrir l'écriture. Seigneur Jésus, sans ta parole, où irions-nous? Que ferions-nous? Elle est comme un phare dans notre vie. Et je te prie que tu l'utilises ce matin selon ton plan souverain, que tu visites nos cœurs d'une façon ou d'une autre, que tu imprime ta pensée dans nos cœurs pour que nous puissions te servir de mieux en mieux. Au nom de Jésus, je te prie, Père Céleste. Amen. Un passage bien connu, Matthieu 18, les 14 premiers versets. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent: qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit: je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Si ta main ou ton pied sont pour toi une occasion de chute, allez, coupe-les, jette-les loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie boiteux ou manchot que d'avoir deux pieds ou deux mains et d'être jeté dans le feu éternel. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, allez, arrache-le, jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarées. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Quel texte! Un texte où Jésus aime bousculer les choses. Sur le chemin de Capernaum, nous dit l'évangile de Marc, les disciples s'étaient disputés à propos de savoir qui d'entre eux était le plus grand. Bien sûr, forcément, quand on vit avec Jésus, quand on voit les miracles qu'il fait, quand on voit sa popularité, franchement, ça redore le blason d'un pauvre pêcheur. Et il se posait la question, qui est le plus grand d'entre nous? Et Jésus les a interrogés, on lit ça dans Marc 9, verset 33. La conversation ne nous est pas rapportée, mais laissez-moi imaginer peut-être un instant. Pierre, ou Jean, ou peut-être Judas, prétendaient être le plus grand. Pierre pouvait penser: forcément, c'est moi le plus grand. j'ai eu le plus de foi, j'ai marché sur l'eau. Jean aurait pu dire, ben moi, je suis le disciple bien-aimé, celui que Jésus semble préférer. Et puis Judas, peut-être, il aurait pu affirmer qu'il était le plus grand parce qu'il était le trésorier, avant d'être le plus grand traître. Bref, refermons la parenthèse, ce n'est que spéculation, mais nous sommes sur le terrain humain, n'est-ce pas? Le premier point que j'aimerais voir avec vous, c'est cette parole de Jésus qui reprend ses disciples dans un premier temps. Il dit, attendez là, vous êtes en train de dire que, enfin, vous pensez que vous êtes grand, que vous êtes dans le royaume de Dieu, qui sait qui va être vers moi? Et attendez, il faudrait peut-être d'abord entrer dans le royaume de Dieu. Et il leur dit une parole surprenante pour des disciples. Si vous ne vous convertissez, si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Waouh! Je pense que les disciples ont dû avoir le rouge qui leur montait à la figure, là, parce que se convertir. Oui, les disciples avaient besoin de réformer leur pensée au sujet du règne de Dieu, au sujet de ce qui est agréable à Dieu, au sujet des lois qui ont vigueur dans le royaume de Dieu. Charles Spurgeon disait dans un commentaire, « Ne dites pas qu'il faut que les enfants attendent d'être adultes pour venir à Jésus. C'est plutôt vous qui devez devenir comme des enfants. Le problème n'est pas que les enfants ne sont pas comme vous, mais plutôt que vous n'êtes pas comme des enfants. » Quelle est donc cette qualité qu'a l'enfant et que Jésus apprécie tellement ici, au point qu'il va chercher un enfant? Il est probablement chez Pierre, à Capernaum. Peut-être c'est un enfant de Pierre, je ne sais pas, ou en tout cas un enfant habitué de cette maison, un enfant que Jésus connaît. Il le prend au milieu des disciples comme une aide visuelle et il déclare ceci, et l'enfant peut l'entendre lui aussi. Si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas. Et plus loin, il est dit, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Ainsi, Jésus identifie une qualité là chez l'enfant, c'est l'humilité. L'humilité, qu'est-ce que ça peut être? C'est pas perdre sa fierté, c'est pas perdre notre honneur, c'est pas être la serpillière de tout le monde. L'humilité, c'est une caractéristique de dépendance. Et pour entrer dans le royaume de Dieu, l'enfant, on pourrait dire, est en pole position de par sa qualité de dépendance depuis qu'il est tout petit. Il dépend de l'adulte. Il dépend de l'adulte pour ses soins, pour sa nourriture, pour sa sécurité. Il a besoin d'un père, d'un papa, d'une maman pour son éducation, pour se construire. L'enfant s'imprègne, absorbe toutes ces choses. Et il est demandeur d'ailleurs. Les disciples, eux, ont fini de grandir apparemment et se pensent déjà grands. Et en fait, ils s'éloignent de la pensée de Dieu au sujet des enfants, au sujet du même Dieu, carrément des principes qui ont lieu dans le royaume de Dieu. Cette qualité que pointe Jésus chez l'enfant ne fait pas de lui un enfant qui aurait un ticket d'entrée gratuit dans le ciel. Je ne pense pas en tout cas que le texte le dit de cette façon-là. L'enfant, on le sait, par nature, est pécheur comme chacun de nous. Nous sommes nés avec ce problème et l'enfant n'échappe pas à cette réalité aussi. Mais cette qualité de dépendance, cette fraîcheur qu'il y a chez l'enfant, voilà de quoi les disciples devraient être animés. Par quoi ils devraient être animés? Voilà par quoi nous aussi, nous devrions être animés alors même que nous regardons un enfant. C'est ce qu'a fait Jésus. Il a cherché, il a regardé, il a vu un enfant, il l'a fait venir et il l'a pris en exemple. Quel regard a Jésus sur l'enfant? C'est formidable. Évidemment, dans sa nature profonde de père, ce n'est pas vraiment surprenant. Ça nous interroge, je crois, sur notre façon de regarder l'enfant, notre façon de penser à lui pour l'orienter dans les voies du royaume de Dieu. Et en même temps, ça nous interroge sur nous, sur notre fragilité nécessaire pour que, oui, nous dépendions de Jésus-Christ pleinement pour pouvoir entrer dans ce royaume. Sinon, nos pensées ne sont pas converties, notre cœur peut-être n'est pas converti. Il ne suffit pas de connaître des choses sur Jésus pour être sauvé, d'avoir une grande sagesse intellectuelle, de connaître la Bible par cœur. Les pharisiens faisaient cela. Ils avaient une grande religiosité, une grande piété même. Ils allaient à l'église régulièrement, enfin à l'église, à la synagogue. Et pourtant, ils étaient à côté du royaume de Dieu. C'est terrible de pouvoir même fréquenter une église régulièrement et de ne pas avoir été pénétré par cette humilité que Dieu donne. Cette fragilité qui nous met à notre place d'enfants de Dieu, d'enfants, de créatures de Dieu ayant besoin d'être sauvés pour devenir véritablement enfants pleinement de Dieu, participants du royaume, membres de sa cité. Alors c'est mon premier point, les enfants sont humbles. Eh bien, par conséquent, prenons exemple sur cette fragilité, sur cette dépendance pour nous-mêmes vivre cela encore plus pleinement et d'ailleurs nous occuper des enfants avec cette grande sensibilité qu'avait Jésus. Les enfants sont humbles, prenons exemple sur eux. D'ailleurs, humble, c'est un mot intéressant parce qu'il vient du latin humilitas, et en fait c'est dérivé de humus, ce qui signifie la terre. Vous savez, l'humus, c'est ce qui permet à une plante de se développer. C'est je ne sais pas si le mot est correct, un substrat qui apporte une nourriture nécessaire. Et finalement, cette humilité qui caractérisait Jésus, lui qui était nourriture, lui qui était source de vie, qui est source de vie, il a été cette nourriture pour nous. Et à notre tour, eh bien, quand nous sommes nourriture pour les autres, eh bien, nous sommes dans cette attitude d'humilité. L'enfant, lui, avait tout à apprendre, bien sûr. Mais sa dépendance est ce qui est souligné ici par Jésus. Ensuite, j'aimerais qu'on... Le point suivant, verset 5, on en verra 5 au total de points. Le deuxième point, c'est que Christ s'identifie aux enfants. Il dit quelque chose de surprenant. « Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Beaucoup de gens accueillent les enfants, dans les écoles, dans les hôpitaux. Beaucoup de choses sont faites pour les enfants, mais elles restent humanistes. Jésus dit ici d'accueillir un enfant en son nom. Ça veut dire avec cette connaissance qu'il est le Sauveur, qu'il est la vie, qu'en lui est le mouvement et l'être. Quiconque reçoit mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. Ça devrait nous encourager, je crois, à accueillir des enfants, n'est-ce pas? Mais pas les accueillir juste pour un anniversaire, au revoir, coucou. C'est vrai que ça fait du bien à l'enfant d'être accueilli chez quelqu'un. Mais l'accueillir au nom de Jésus, c'est porter un regard constructif sur cet enfant. Un regard qui veut apporter une nourriture à l'enfant pour qu'il puisse découvrir qui n'est pas un hasard sur cette terre, mais que Dieu a un projet de paix, de bienveillance pour sa vie. Un projet de paix et de bonheur. Et accueillir des enfants, ben nous, nos enfants ont grandi, ils ne sont plus à la maison. Et pourtant, Dieu a permis par sa grâce que nous puissions accueillir à la maison, enfin une fois par mois en tout cas, des enfants. Et ici, c'était à Pâques 2016, ça remonte un petit peu déjà. Mais une vingtaine d'enfants du quartier, et d'ailleurs, étaient venus entendre l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et au travers de cette parole de Jésus, eh bien, nous avons une invitation pour chacun de nous, particulièrement les jeunes parents, à se dire, ben, est-ce que je peux accueillir des enfants de mon quartier? Peut-être pas une fois par semaine, mais une fois par mois, ou peut-être une fois par an, mais au moins une fois pour leur parler de Jésus. Avec l'autorisation de leurs parents, bien sûr. En expliquant qu'on va raconter une histoire tirée de la Bible. c'est la mission, je crois, que Jésus, à laquelle nous, Jésus nous invite au travers de cette parole. Quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même, ce n'est pas qu'il y ait une autre façon d'être sauvé. C'est simplement qu'on honore Dieu en accomplissant la mission pour laquelle, à laquelle il nous appelle, d'aller et d'annoncer sa bonne nouvelle. Il y a une bénédiction, c'est un vrai privilège de pouvoir travailler parmi les enfants. Et j'aimerais vous y encourager encore, bien que ça soit déjà dans vos gènes, dans votre ADN. Il est question de recevoir, donc d'accueillir chez soi, quiconque. Eh bien, chacun peut le faire. Il suffit d'avoir un cœur préparé. Et puis il y a une promesse, donc, une bénédiction à saisir. Jésus est présent dans cette circonstance. Quand nous obéissons au Seigneur, eh bien, l'Esprit communique une bénédiction. Et nous sommes heureux de l'obéissance que nous avons pu avoir. J'aimerais vous encourager à réfléchir, peut-être tout à nouveau, comment vous pourriez accueillir des enfants chez vous. Peut-être vous n'avez plus l'âge comme moi, mais peut-être il y a des jeunes couples parmi nous qui ont des jeunes enfants qui grandissent. Et là, Dieu peut se servir de vous pour bénir les enfants de votre entourage, dans votre quartier, dans votre immeuble. Des gens qui ne viendront jamais ici, ou en tout cas pas tout de suite. Mais même s'ils ne viennent jamais, vous aurez pris part à leur vie en leur montrant le chemin de la vie éternelle. Les enfants peuvent naître de nouveau. Il y a une parole très surprenante ici de Jésus, mais qui est magnifique et qui encourage le ministère auprès des enfants. Et j'encourage même vous qui n'avez plus d'enfants, mais qui avez des petits-enfants, à porter ce regard à cause de cette parole que nous allons lire. Au verset 6, il est dit « Si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi ». Et dans l'avertissement que donne Jésus ici à ses disciples, toujours en présence de l'enfant, si quelqu'un scandalise un de ces petits qui croient en moi. Et le verbe croire ici que nous avons, c'est le même mot que nous trouvons pour croire à salut dans Jean 3,16 par exemple. Car Dieu a tant aimé le monde, vous savez la suite, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Voilà, c'est ça. Et on trouve ce mot croire beaucoup de fois dans le Nouveau Testament. C'est vraiment croire à salut. Et Jésus lui-même, ici, emploie ce mot pour un enfant. Est-ce qu'il y a parmi nous des personnes qui ont déjà accepté Jésus-Christ quand ils étaient enfants? Vous pouvez juste lever la main, s'il y en a quelques-uns. Waouh, il y en a même plusieurs. Gloire à Dieu. C'est formidable. Quelqu'un a pris soin de vous quand vous étiez jeune, en vous montrant la parole de Dieu. Il est vrai qu'il y a un avertissement ici qui est aussi important. Jésus nous invite à faire attention à notre comportement vis-à-vis des enfants. Comment peut-on choquer un enfant? Peut-être par des mauvais exemples. Il voit une attitude différente de ce qui est prêché dans la famille, enfin de ce qui est dit en tout cas en parole par les parents. Et ça peut heurter l'enfant et finalement lui dire « Mais attendez, mes parents ils disent qu'ils aiment Jésus, et puis en fait ils sont en train de se crier dessus tout le temps, ils ne se pardonnent jamais. » C'est choquant pour un enfant. Ça peut être aussi parfois un mauvais enseignement, un enseignement erroné qui peut leur être donné, comme quoi Jésus serait la recette à tous les problèmes, sans qu'on fasse rien, sans qu'on ait aucune part. Alors après, les enfants se découragent, ne comprennent plus le sens des choses et la part de responsabilité qu'ils ont. Oui, nos caractères, tout cela, nos attitudes, nos paroles peuvent jouer un rôle profond sur les enfants, le caractère, leur développement. Donc nous devons veiller à ces choses-là. Et vous avez vu que l'avertissement de Jésus est « on ne peut plus sévère ». On ne peut plus sévère. Si quelqu'un était une occasion de chute pour un enfant. C'est-à-dire que finalement, si l'enfant en arrivait à cause de l'attitude des grands qui ont perdu cette humilité, à se détourner de la foi, c'est grave aux yeux de Dieu. Très grave. Alors, c'est vrai, nous les adultes ne sommes pas parfaits, c'est clair. Mais le chemin de l'humilité, c'est de demander pardon, n'est-ce pas? Même à nos enfants, parfois, quand on a mal agi et qu'ils ont été au courant de ce qui s'est passé, on a le devoir de passer par la porte du royaume de Dieu. On est déjà dans le royaume de Dieu, bien sûr, comprenez-moi, mais l'idée, c'est de s'humilier et de dire, oui, ben là, je suis passé à côté de ce que Dieu voulait. Là, Jésus a pas régné sur ma vie. Là, j'ai planté. On va prier pour ça. Nos enfants nous observent. Même dans l'église ici, sans qu'ils vous le disent, ils nous observent. Combien c'est précieux d'avoir des moniteurs, des parents qui ont à cœur d'enseigner leurs enfants. Les enfants sont précieux pour Dieu. Au verset 10, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Alors là, on est vraiment surpris, on ne comprend pas bien qui sont ces anges, qu'est-ce qu'ils font. Mais Jésus lui-même dit que des anges, des enfants, voient Dieu continuellement. C'est dire si Dieu est au courant de ce qui se passe, si Dieu est au courant de ce qui se passe dans la vie de l'enfant, et s'il a à cœur que l'enfant réussisse sa vie. Chaque enfant qui naît sur la terre, Dieu a un projet de vie éternelle pour lui. Jésus est mort pour chacun. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, nous dit l'Écriture. Et ensuite, Jésus utilise une parabole que vous connaissez bien, celle de la brebis perdue. Et certains commentateurs disent, oui, non, mais là, il n'est plus question des enfants, c'est pas possible. On voit que ce texte est ailleurs dans les évangiles, donc il n'est pas forcément en correspondance avec les enfants. Mais ici, un théologien comme Henri Blocher a dit clairement, si, il n'y a aucune raison ici de penser que les petits dont il est question dans cette parabole qu'utilise Jésus de la brebis perdue, ce ne soient pas les enfants. Vous connaissez cette parabole de 100 brebis, une seule qui est perdue. Eh bien, le berger, qu'est-ce qu'il fait? Il va la chercher. Parce qu'il l'aime. Parce qu'il est tenace. Parce qu'il est persévérant. Parce qu'il y a quelque chose qui boue dans son cœur. Et Dieu aimerait que nous soyons de cette trempe-là aussi. Alors que nous pensons aux enfants qui grandissent, à nos petits-enfants. Il aimerait que nous soyons de ces bergers qui vont donner un souffle, qui vont apporter quelque chose de constructif dans la vie de nos enfants. Et j'aimerais encourager, s'il y a des enfants parmi nous, peut-être qu'il n'y en a pas, mais j'aimerais encourager en tout cas les parents à prendre du temps avec leurs enfants en famille aussi. Combien c'est important de pouvoir se poser pour étudier la parole de Dieu courtement, échanger, prier les uns pour les autres. Dans la construction d'un enfant, d'un adolescent en particulier, c'est vraiment déterminant. Les enfants ont besoin d'un père. Et c'est la conclusion de ce passage au verset 14. Et je vais terminer avec ce verset 14. La Bible nous dit quelque chose de difficile. Elle nous dit que les enfants, au travers de cette parabole, sont perdus. Plusieurs fois c'est souligné, je ne vais pas m'y étendre. Sans Christ, un enfant est perdu. Et Jésus termine en disant, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Ce n'est pas la volonté de notre Père. Parfois on dit, mais c'est quoi la volonté de Dieu? Qu'est-ce que je dois faire dans ma vie? Ok, ben lisez ce verset. Parce que là, vous savez, c'est écrit noir sur blanc. Ce n'est pas la volonté de votre Père qu'il se perde un seul enfant, un seul être humain que Dieu a mis au monde par sa puissance. Alors que Dieu nous encourage au travers de ce passage à renouveler notre regard sur les enfants. Que l'ADN qui est déjà en vous, ces gènes qui sont déjà en vous en faveur des enfants, puissent reprendre encore forme dans la nouvelle génération. Que les enfants puissent être bénis dans les colonies, mais avant cela même dans les familles, premièrement, et puis dans les quartiers, où nous pouvons aussi être en bénédiction aux enfants. Oui, les enfants ont besoin de Jésus-Christ. J'aimerais vous encourager à prier et aller les chercher et à les trouver. C'est notre ADN, c'est notre appel, et j'aimerais que Dieu puisse utiliser ce court message pour vous encourager. J'avais l'intention de vous montrer une petite vidéo courte pour terminer. On peut essayer. De toute façon, elle est sans parole. Mais voilà, elle invite à la réflexion.
Merci Armand pour ce message. Et puis on a compris aussi le sens de la vidéo. Que se passe-t-il maintenant ? Donc Agape, je propose de prévoir de commencer l'Agape à 12h30 et l'Assemblée Générale commencera à 14h30 avec objectif de fin au plus tard à 16h. Voilà, si vous êtes de passage, si vous n'avez rien apporté, sentez-vous invité. On aura grand plaisir à vous avoir aussi à manger avec nous. Et voilà, vous êtes bienvenus pour ce repas fraternel. Merci.